Europe 1.
8h13, votre invité Sonia Mabrouk avec lui. On va tenter de sentir le pays. Politologue, chercheur associé au CEVIPOF.
Le pays, et puis aller à l'international aussi. Bienvenue ce matin sur Europe 1. Bonjour Jérôme Jaffray.
Bonjour.
Le président français, pardonnez-moi, est arrivé aux États-Unis pour une visite d'État. Il y a une intense activité internationale de la part d'Emmanuel Macron qui fait dire à ses opposants que cet activisme sur la scène étrangère vient masquer une forme d'impuissance politique sur le plan national. Quelle analyse en faites-vous ?
C'est un reproche classique fait au président de la République. Hein. Quand Mitterrand était au pouvoir dans les années 81-83, l'opposition était déchaînée et Mitterrand, Poniatowski, qui était le ministre de l'Intérieur de Giscard avant, l'avait baptisé la Madone des aéroports. C'est dire que la critique est classique. Il est évident que pour le président, jouer le rôle international, je dirais, c'est l'élément agréable, positif de son mandat, surtout quand on rencontre tellement de difficultés à l'intérieur. Il représente la France dans ce genre de voyage et du coup forcément on souhaite sa réussite, même si on est son opposant dans le pays, parmi les électeurs tout au moins. Y a ça. Maintenant, les difficultés sont telles à l'international que ce que les Français attendent aussi, ce sont des résultats.
Mais justement, Jérôme Jaffray, les Français de manière générale sont sensibles à l'action au bilan international d'un chef d'État ou bien seul compte pour eux les actes et finalement le bilan sur le plan national ?
Non, l'international compte beaucoup. Hein. D'abord, il fabrique la stature d'un président. Hein. Évidemment, parlons du général de Gaulle, mais parlons Mitterrand précisément. Les pacifistes sont à l'ouest et les fusées sont à l'est. Ce sont des phrases qui marquent et qui sculptent la stature présidentielle. Donc, il y a quelque chose, Chirac et la guerre en Irak, bien entendu. Donc vous avez une situation dans laquelle c'est un élément fondamental de la dimension du président de la Ve République, parce qu'il est chef de la diplomatie, chef des armées d'une certaine façon, mais à la condition d'avoir des résultats. Parce qu'aujourd'hui, vous avez tellement de problèmes à l'international, l'énergie, l'immigration, la souveraineté industrielle, les relations avec l'Allemagne, que s'il n'y a pas de résultats derrière, là, pour le coup, pour le président, ce sera quelque chose de négatif.
Chirac et donc la guerre ou la non-guerre en tous les cas pour la France en Irak, mais pour Emmanuel Macron, alors quelle empreinte, quelle marque, quel bilan ?
Pour le moment, il n'y a pas l'élément fondateur et décisif. Emmanuel Macron, c'est l'Europe, son élément clé, hein, c'est sa dimension. Mais les difficultés que nous avons récemment avec l'Italie sur les problèmes migratoires, avec l'Allemagne sur les problèmes industriels, économiques que nous avons, font que ça n'avance pas autant qu'il le faudrait. Reste que il y a la dimension ukrainienne, le rôle que veut jouer Emmanuel Macron, si nous arrivons à sortir de cette guerre. Le fait de renouer avec la Russie, que l'Europe puisse renouer avec la Russie, c'est le rôle historique qu'Emmanuel Macron cherche à jouer. Maintenant, le temps coule et il est évident que nous ne sommes pas du tout à la fin de cette guerre.
Le temps coule aussi sur le plan national, Jérôme Jaffray. Justement, Emmanuel Macron affiche quand même sa volonté de mener la réforme des retraites, de répondre aussi à l'ambition écologique, mais très concrètement, dans un tel contexte inflationniste qui est inflammable, de quelle marge de manœuvre dispose-t-il ?
C'est extrêmement difficile, car on a, au fond, le président est devenu le président de la gestion des crises. Et les crises en permanence devant lui. Sur ce plan-là, je dirais qu'Emmanuel Macron, qui au départ en 2017, dans son premier quinquennat, voulait être le président de la transformation du pays, n'a pas vraiment réussi à imprimer sa marque là-dessus. Mais président de la gestion des crises, là, il n'a cessé de les affronter, de les gérer. Alors, la réforme des retraites, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement difficile à gérer parce que les Français y sont profondément opposés. Ils le vivent très largement comme une brutalisation de leur vie, en particulier pour tous les gens modestes, tous les gens qui attendent avec impatience la retraite, tous les gens qui ont une mauvaise relation avec le travail, ou bien des travaux pénibles et des travaux difficiles. Donc c'est évident que ce sera difficile. Maintenant, l'argument du président, c'est à la fois, le seul qui puisse passer, c'est le financement des retraites. Toute autre discussion sur à quoi sert cet allongement est inacceptable. On a entendu des choses comme il faut financer la transition écologique, etc. C'est inacceptable comme type de propos.
Et inaudible complètement pour vous ?
Voilà, ça, il faut l'abandonner. est-ce que c'est nécessaire pour financer les retraites? Ça, c'est un point. Et de, par ailleurs, vous aurez évidemment des oppositions très fortes. Hein. Les syndicats s'y opposeront. Il y aura défilés, manifestations, mais on sera plutôt...
C'est dans... une évidence pour vous, Jérôme Jaffray. C'est-à-dire que le chantier de la réforme des retraites, son corollaire dans notre pays, c'est tout un train de blocage et de contestation.
Il y aura un affrontement social. Hein. On annonce pour le mois de janvier la proposition, l'extrême difficulté de pouvoir se déplacer en France. C'est clair. Mais c'est l'affrontement classique, je dirais. La seule chose que craint véritablement le pouvoir,
c'est
la résurgence d'un mouvement type gilet jaune.
Mais qui viendrait
si vous êtes dans le mouvement syndical...
Oui, les carburants, la voiture, plutôt.
Voilà. Alors là, et du coup, vous abordez le problème de la transition écologique. Ce qui m'a frappé, c'est dans un article du Monde publié, je crois, hier, Elisabeth Borne précise qu'il ne faut pas exiger des sacrifices des Français. Phrase stupéfiante par rapport à la notion de transition écologique. Et c'est là, c'est la relation à la voiture. Il y a deux choses sur lesquelles les Français ne plaisantent pas, toutes les études d'opinion nous le disent, c'est l'âge de la retraite, donc on va et l'automobile. Il ne faut pas gêner les Français sur ce sujet, parce que c'est tout simplement leur mode de vie. Si vous rendez le mode de vie des Français impossible, vous avez le mouvement type gilet jaune, et là, c'est la seule chose que craint véritablement le pouvoir. Il ne craint pas des centaines de milliers de personnes qui manifestent contre la réforme à 65 ans. Ça, c'est du classique.
Du classique, en tout cas, au sein du gouvernement, c'est peut-être classique, Jérôme Jaffray, les oppositions, en tous les cas, la petite musique dissonante entre différents ministres. Il y a Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, qui fait entendre de plus en plus sa propre partition. Les ministres se contredisent, s'opposent ici même à ce micro. De quoi tout cela est-il, selon vous, le révélateur?
C'est le révélateur de l'après-macronisme qui est engagé. Mais il est engagé depuis le 24 avril au soir, l'après-macronisme. D'abord parce que ce deuxième mandat du président, c'est toujours beaucoup plus difficile qu'un premier mandat, et ce président ne peut pas se représenter. Il ne redeviendra rééligible qu'au lendemain de l'élection de son successeur. Donc tout le monde est entré dans des calculs. Tout le monde est entré dans des positionnements. Positionnement soit pour espérer aller à Matignon, qui peut être une marche vers l'Élysée, puisque le président ne peut pas se représenter, soit développer son propre musique. Alors il y a Édouard Philippe, Bruno Le Maire, dont effectivement, on a été un peu surpris de voir Bruno Le Maire, alors que l'affaire McKinsey éclate, on a eu des abus dans le recours au cabinet de conseil et on corrige ça. Je dois dire qu'effectivement, c'est un propos. De même, la demande de Bruno Le Maire d'aller vers le dividende salarié, c'est-à-dire le partage de la valeur, qui peut être une très grande réforme, qui, je crois, est quelque chose qui, effectivement, peut correspondre à une demande de meilleure répartition de la plus-value en France, que ce soit Bruno Le Maire qui porte ça et non pas Emmanuel Macron, m'a un peu surpris aussi.
Vous parlez justement de l'affaire dite McKinsey. Il y a les affaires, les soupçons, et ça vole en escadrille. Comme dirait, pour le reprendre, Jacques Chirac. Il y a aussi les soupçons autour du secrétaire général de l'Élysée. C'est un homme quand même puissant aux côtés d'Emmanuel Macron, Alexis Kohler, et ses liens éventuels avec l'armateur MSC. Est-ce que ce sont autant, Jérôme Jaffray, d'épines dans le pied du locataire de l'Élysée ?
C'est un climat, et forcément, je ne connais pas le fond des affaires en la matière, et je me garderai de porter un jugement, mais tout ça crée un climat dans lequel la notion de conflit d'intérêts peut-être porté au cœur du pouvoir et du coup donner prise, je dirais, aux critiques des oppositions les plus radicales. C'est-à-dire qu'il y a des liens entre activités privées et passage aux activités publiques qui créent une zone grise, une zone de confusion dans laquelle évidemment toutes ces éminentes personnalités, quand elles n'exercent pas des fonctions politiques, exercent des fonctions dans le privé à de très haut niveau, ce qui peut prêter le flanc à ce type de critique et du coup donne une coloration, je dirais, au pouvoir en place, président des riches, président au service des riches, confusion des rôles. Bref, on voit bien que cette musique-là existe.
Zone grise, dites-vous, et puis contexte social inflammable. À qui peut profiter une telle situation? Marine Le Pen ou bien, Jérôme Jaffray, à l'inverse, les mesures prises par le gouvernement pour protéger les plus fragiles sont mises au crédit aujourd'hui d'Emmanuel Macron?
Alors, l'extrême difficulté des mesures que l'on prend au service des plus fragiles, c'est que d'une part, elles sont évidentes, toujours minimales et jamais suffisantes, et très vite oubliées parce qu'on passe à autre chose. Bon, maintenant, dans le bilan d'Emmanuel Macron, ce qui a été fait, le quoi qu'il en coûte pendant le Covid, a été une chose absolument fondamentale qui a permis au pays de continuer à vivre et de pouvoir se relancer après la crise. Mais vous avez raison, Marine Le Pen, elle est quand même dans la position en la matière de bénéficier, je dirais, à la fois des critiques qui sont faites au pouvoir, parce que maintenant, on a à peu près tout essayé, sauf Marine Le Pen pense beaucoup de Français. Il y a cette dimension-là. Et puis, la demande d'autorité également, qu'elle incarne, plus ou moins, font qu'elle est plutôt bénéficiaire politiquement pour le moment, mais d'une certaine façon, que Marine Le Pen soit installée presque dans la position de favorite pour la présidentielle de 2027. D'abord, nous sommes à 4 ans et demi de cette échéance. Et ensuite, vous savez, c'est très dur de tenir si longtemps la position de favorite et du coup, de recevoir toutes les flèches régulièrement. Alors, Marine Le Pen est contente parce que c'est la première fois qu'un Le Pen est position de favori en vue de la prochaine échéance électorale. Mais c'est une position extrêmement difficile à tenir.
Le chemin est encore long. Il y a aussi, Jérôme Jaffray, la manière dont on nous parle. Il faut voir comment on nous parle, comme chantait Souchon. Je voudrais vous faire écouter un extrait et avoir votre avis hier du point de presse après le Conseil des ministres, Olivier Véran. Écoutons-le.
Il existe des gestes simples pour réduire tout risque de surtension et tout risque de coupure. Par exemple, il pourra nous être demandé, dans les horaires qui sont les plus demandeurs d'électricité, c'est-à-dire en général le matin et puis le soir vers 19h, d'éviter de faire tourner le lave-linge ou de décaler un peu l'allumage de la plaque de cuisson. Vous verrez, c'est des mesures extrêmement simples qui sont en réalité assez peu contraignantes et qui ont un impact massif pour éviter qu'on se retrouve dans des situations, même temporaires, qui sont plus délicates.
Est-ce qu'on nous parle comme des enfants ?
Ça ne vole pas très haut, hein, franchement. Ce qui stupéfie un peu les Français, c'est un sentiment d'extraordinaire incompréhension, c'est l'état du pays. C'est-à-dire, au fond, le fait qu'on en soit là, dans la 6e puissance mondiale, normalement, un pays qui, grâce au nucléaire, avait son indépendance énergétique et sa puissance, un prix de l'électricité qui monte alors que nous avons les moyens de production en France, incompréhension totale des Français sur tous ces sujets. Comment ça se fait ? Comment et risque pour l'Europe, puisqu'on nous dit que c'est l'Europe qui bloque la réforme du prix de l'électricité que la France réclame et que c'est impossible parce que les Allemands sont attachés au fait qu'ils soient collés au prix du gaz. Ça, c'est incompréhensible. Donc, la politique énergétique de la France, qui a été menée depuis une quinzaine d'années, est évidemment un échec et du coup, rejaillit sur tous les détenteurs du pouvoir depuis 15 ans.
Y compris les Républicains ? Parce qu'ils se cherchent un chef en ce moment, Jérôme Jaffray. La bataille tourne autour d'un duel, Éric Ciotti et Bruno Retailleau. Puisqu'on est en période de Coupe du Monde, est-ce que je peux vous demander un pronostic sur ce duel ?
Écoutez, la prudence est de mise. Je rappelle que ce soit les adhérents qui votent, qu'il y en a 90 000 en tout, qu'il y aura donc 50 à 60 000 vrais participants. Je n'en suis pas, je vous le dis tout net. Et donc, à ce moment-là, je me garderai bien de porter un jugement trop précis. Ce qu'il faut bien comprendre. D'abord, c'est un enjeu finalement très important. Alors qu'on se dit, mais que cette élection, tout le monde s'en moque, ça n'a pas d'importance. Non, s'il y a un vrai président des Républicains qui définit la politique de ce parti qui aujourd'hui n'en a pas, qui lui donne une ligne politique, qui a une autorité sur les députés par exemple, qui aujourd'hui sont des individualités et non plus un groupe collectif qui fonctionne collectivement, alors que c'est lui qui peut permettre l'adoption ou le rejet des textes du gouvernement, c'est-à-dire une extraordinaire puissance.
Et
dernier élément que j'ajouterais, alors vous me demandez un pronostic, j'en fais un dans un sens inverse. Si Éric Ciotti était battu, d'abord ce serait une surprise, car il apparaît comme le favori, et en plus du coup, comme il a fixé désignation du candidat à la présidentielle extrêmement rapidement, et Laurent Wauquiez mis sur orbite pour la présidentielle, un échec d'Éric Ciotti changerait complètement la donne présidentielle pour les Républicains. Or la donne présidentielle pour les Républicains, elle entre aussi dans l'après-macronisme. C'est-à-dire, qui sera en position dans l'après-macronisme, entre les différentes figures de la droite et du centre, et donc c'est un enjeu très important.
L'enjeu pour eux, c'est aussi la ligne coincée entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Quelle peut être l'offre des Républicains quand on sait leurs électeurs tiraillés entre la majorité et le RN ? Est-ce que finalement un parti de droite LR indépendant est indispensable aujourd'hui en France ?
Alors, d'abord, les LR le pensent certainement. Et puis, la vérité, c'est qu'on ne sait pas ce que deviendra le macronisme après Emmanuel Macron. Et il peut disparaître complètement. Le macronisme, c'est le dépassement du clivage gauche-droite, la création d'un bloc central, le mélange de thèmes de gauche gauche, de centre-gauche et de centre-droit, ça peut disparaître complètement. À ce moment-là, beaucoup d'électeurs, si vous voulez, ne craignent qu'une seule chose, à part que le ciel leur tombe sur la tête, c'est un duel Le Pen-Mélenchon au second tour de la présidentielle de 2027, qui les obligerait à choisir entre deux candidats dont la majorité du pays ne veut pas l'élection, à la vérité. Et à ce moment-là, vous avez la recherche de la solution. Qui peut donner l'offre politique qui permette de sortir de ce duel? Du coup, l'autonomie des Républicains est une composante essentielle du maintien d'une offre politique indépendante.
Nous avons balayé une grande partie déjà de ce système politique. C'est un plaisir de le faire avec vous ce matin sur Europe 1. Merci Jérôme Jaffray.
Merci.
Bonne journée à vous.
Merci Jérôme Jaffray.